Quand est-ce que vous avez pris pour la dernière fois une décision qui a vraiment transformé votre vie? Une décision qui a fait que ça a complètement bouleversé votre façon, soit de travailler, soit de consommer votre temps. Et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui qu'on va aborder. Et ce sujet, justement, c'est la peur du changement dans l'immobilier. Bonjour, je suis Frédéric Epler. Aujourd'hui, c'est un peu spécial puisque c'est la nouvelle saison du podcast. Un podcast un peu spécial puisqu'aujourd'hui, je reçois d'ailleurs pour ce premier épisode une personne que vous connaissez, que vous avez sûrement déjà vu sur YouTube. C'est Alexandre Cordani qui donc anime Secrets de Pige. Et donc, pour ce premier podcast en live, je vais donc avoir l'honneur d'échanger avec lui pendant un petit peu plus d'une heure. Bonjour
Hello.
Alexandre. J'espère que tu vas bien. Bon, on a eu un petit couac sur le début, parce que j'ai eu un écho avec
C'était
YouTube.
ton YouTube en fait qui était branché.
C'est ça, mon YouTube était branché, donc du coup, ça me faisait des doubles échos. Comme quoi,
Ouais,
on apprend
mais je
tous les
connais
jours.
ça, t'inquiète, je connais ça, les petits problèmes du direct que tu as du mal à comprendre. Et voilà, j'ai déjà eu ça, le YouTube branché, et donc du coup, voilà, je compatis à ta douleur.
Bon, ce qui est important, c'est de ne pas paniquer. On essaie d'être le plus zen possible.
C'est ça, exactement.
Alors.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Fred. Je suis très content d'être là.
Écoute, j'aimerais
Je
bien que
vois
tu te
qu'il
présentes.
commence à y
Ouais.
avoir des messages Facebook user. Vous devez cliquer sur le petit lien qui est sur Facebook pour qu'on puisse voir qui vous êtes. Sinon, on ne le
Exactement.
voit pas.
Exactement. Écoute, Alexandre, je suis très heureux de t'avoir pour ce premier épisode de cette nouvelle saison du podcast. Et écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, déjà présente-toi, dis-nous qui tu es, ce que tu fais. On sait que tu es agent immobilier, mais tu fais pas mal d'autres choses et voilà, ça m'intéresse un petit peu
Alors, je ne vais pas fâcher, je ne suis pas agent immobilier, je suis conseiller immobilier.
Ah, excuse-moi,
Sinon, je
c'est
vais
mon
fâcher
âge.
les détenteurs de carte T, même si je l'ai déjà eu, mais je ne l'ai plus, la carte T, donc je ne vais pas les fâcher. Je suis conseiller immobilier au sein d'un réseau qui s'appelle EXP. Aujourd'hui, ça fait 23 ans que je fais de l'immobilier et je suis également formateur. J'ai une petite chaîne où je fais de la formation. Une chaîne, pardon, un site internet où je fais de la formation. Et sinon, j'ai une chaîne YouTube exactement qui s'appelle Alexandre Cordani où j'anime une émission, mon émission principale. En fait, je vais finir par être un peu le Drucker de l'immobilier si ça continue. Ça fait 2 ans et demi que maintenant je fais une émission qui s'appelle Secret de Pige. Et j'anime ça avec plein, plein de conseillers, plein de formateurs. D'ailleurs, Fred, tu es le bienvenu. Quand tu veux, dans cette
Ouais,
émission.
bah, on
On
pourra
va
peut-être faire
parler
l'échange.
effectivement, on parlera prospection avec toi. Mais voilà. Non, je pense que voilà, je suis quelqu'un de. Voilà, j'ai 50 ans, sinon j'ai une femme et 2 enfants et un chat.
Moi, ce que j'ai
Voilà.
adoré quand je t'ai découvert il y a quelque temps sur Secrets de Pige, moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur ton format, c'est qu'il est super authentique. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps ça sur des formats vidéo. On a des trucs parfois un peu surfaits, un peu lourds. Moi, j'ai adoré ce format parce que ouais, c'est authentique, c'est simple, c'est vrai, quoi. Donc, ouais, continue parce que c'est pas forcément évident. Les gens arrêtent assez rapidement. Et toi, tu résistes. C'est bien.
Voilà, tu vois, je commence à avoir les cheveux blancs et tout.
Exactement.
On va finir par m'appeler Michel Drucker.
Exactement. Bon, allez, on va commencer. Aujourd'hui, on va parler donc de la peur du changement. Alors, on l'a spécifiquement mis dans l'immobilier pour des raisons qu'on connaît tous, puisque moi-même, je suis un ancien agent immobilier. Toi aussi. Bon, après, on peut appeler ça conseiller immobilier, agent immobilier, comme on veut, on s'en fout, ça reste quand même des métiers de l'immobilier. Et la première question que j'ai pour toi, tu vas voir, elle est assez simple, c'est l'évolution du métier depuis les années 2000. Alors, je ne suis pas revenu un petit peu en avant les années 2000 parce que moi, quand j'ai commencé l'immobilier, c'était dans les années 90, début 90. Donc, ça ferait un peu vieux croûton. Donc, non, on va rester sur 2000 parce qu'il y a pas mal de changements en 2000 et de 2000 à ce jour. Et en gros, déjà, la première question que j'aimerais te poser par rapport à ça, c'est est-ce que tu te rappelles de ton quotidien d'agent immobilier quand tu as commencé? Puisque de mémoire, je crois que tu as commencé en 2000.
J'ai commencé en 2001, exactement. J'ai
D'accord.
commencé en mai 2001 et en septembre 2001, il y avait les tours qui s'effondraient à New York. Et ça nous a fait bizarre tous. Et on croyait, moi je me suis dit, j'ai commencé il y a 3 mois et je vais finir là parce que, à mon avis, ça va mal se barrer. finalement, ça s'est bien passé. On est encore là. Donc oui, j'ai commencé en 2001. J'ai envie de te dire, il n'y a plus rien, en fait. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Oui, en fait, le fonctionnement, déjà, en 2001, il n'y avait pas de mandataire. Déjà. Donc, quand tu parlais agence, tu parlais agence. Quand tu parlais conseiller immobilier, tu parlais conseiller immobilier en agence. Donc, tu avais fait ta vie, tu avais vite fait le tour, finalement. Moi, j'avais à peu près répertorié quand même sur Saint-Maur-des-Fossés une centaine de cartes de transaction. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, 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 beaucoup plus. 100 cartes de transaction, mais il n'y en avait finalement pas tant que ça qui faisait de la vraie transaction, de la négociation avec vraiment du démarchage, de la prospection, etc. Il y avait des gros réseaux, il y avait quelques petits indépendants.
Ouais.
Mais finalement, le métier a bien changé. Aujourd'hui, on a ça. À l'époque, on ne l'avait pas. Aujourd'hui, on a toutes les alertes qui se font grâce à ça. Hein. Puis finalement, c'est ça qui a changé.
Avant de parler de 2023, oui. Enfin, des années, vraiment en 2000, c'était quoi ton quotidien? En gros, tu faisais quoi?
De la pige téléphonique. Donc, la pige téléphonique, c'était vraiment de la pige pour le coup. C'est-à-dire qu'on achetait le PAP, le journal du PAP. Et
tu coupais les annonces.
On allait piger le journal du PAP. Ouais, c'est ça. En fait, on avait un outil qui s'appelait Périclès. Donc, c'était un ancêtre du CRM immobilier. Exact. Et donc, on devait rentrer les numéros de téléphone pour voir si c'était suivi par un conseiller ou pas. Et puis, si c'était pas suivi, on pouvait le récupérer et appeler. Et il n'y avait pas grand-chose qui changeait. Aujourd'hui, la pige, elle se fait directement sur Internet. Mais c'est vrai qu'à l'époque, elle était quand même réservée à ceux qui achetaient le journal. Donc, il y avait quand même une grosse différence, c'est-à-dire que les acheteurs, eux, n'achetaient pas forcément le journal. Ils l'achetaient une fois, ils l'achetaient deux fois, ils l'achetaient trois fois. Et puis, à un moment donné, ils ne l'achetaient plus. Et donc, nous, on était là pour justement récupérer toute cette pige et pour appeler les gens en disant « j'ai trouvé votre trois pièces que vous cherchez ». Et en fait, il venait de paraître dans le journal et le gars ne l'avait pas vu. Et donc, c'est vrai que c'était à ce niveau-là, c'était quand même beaucoup plus simple. Après, mes journées, c'était beaucoup aussi de reconnaissance. Ouais. Alors, ça n'a pas beaucoup changé finalement. Hein. Aujourd'hui, on fait aussi de la reconnaissance. Donc, je regardais les biens qui étaient rentrés chez Pierre-Paul Jacques, sauf qu'on ne les regardait pas forcément sur Internet. On les regardait avec des magazines qui avaient comme par exemple Se Loger, parce que Se Loger, au départ, c'était un magazine.
Exactement, oui. Comme avant de rallouer, Se Loger pour la période, bien sûr.
Mmh. Ouais, c'est, ça fait bizarre de dire ça, mais oui, Se Loger, c'était un magazine au départ. Et donc, on regardait les annonces et puis on allait les chercher. Il y avait Grade 94, tous ces trucs-là. Et donc, on allait ensuite chercher les biens qui étaient à vendre. Et puis, on se présentait, on donnait notre carte. C'était quand même nettement plus facile.
Est-ce que, par exemple, moi, quand j'ai commencé en 95, en réalité, par rapport aux années 2000, puisque j'ai arrêté dans les années 2008, dans ces eaux-là, mais dans les années 90, en réalité, quand on travaillait, on avait un cycle qui était quand même assez court. C'est-à-dire que nous, quand on voyait une annonce, on regardait, on allait farfouiller un peu partout. Et souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait directement aller dans la rue, on cherchait un peu partout et on chopait l'information. Et généralement, on arrivait à la trouver et on appelait tout de suite nos acquéreurs. On avait des cycles qui étaient quand même assez courts. Est-ce que toi, tu as vécu la même chose, justement?
C'était complètement différent en fait. Déjà, on avait beaucoup plus de facilité. Encore une fois, il y avait moins de concurrence. Il y avait moins de ventes, bien évidemment, hein, parce qu'on n'était pas au million de transactions en l'an 2000. Mais il y avait beaucoup, beaucoup moins de concurrence à l'époque. Et donc, on rentrait plus facilement les affaires. Et ensuite, derrière, alors moi, j'ai tout de suite compris le fonctionnement d'une agence immobilière. J'étais très, très, très bon en rentrée de mandat. Alors, je dis que c'était plus facile, mais il y avait aussi des gens qui rentraient dans l'immobilier et qui ressortaient. Et il y a des gens qui ne savaient pas rentrer les mandats. Donc, moi, j'ai tout de suite compris qu'une agence immobilière, si tu ne rentrais pas de mandat, finalement, tu ne servais pas à grand-chose. Et donc, du coup, je me suis mis dans la rentrée de mandat. Je rentrais beaucoup, beaucoup de mandats et je m'étais mis en binôme avec une personne. Et à chaque fois que je rentrais un mandat, je l'appelais. Je disais « Alors, Claire ?» parce qu'elle s'appelait Claire. Je viens de rentrer un trois pièces et elle, je me rappelle, elle travaillait à l'ancienne avec un calepin et dans son calepin, elle avait tous ses clients avec trois pièces. Elle me disait bouge pas, j'ai quelqu'un pour toi et boum, elle faisait tout de suite la bascule et c'était vraiment super. Enfin, c'est top quoi. Voilà, j'ai compris le fonctionnement rapidement comment travailler en tant que conseiller immobilier.
Donc, en gros, tu avais ton calepin, tu prenais l'information en temps réel, et puis en gros, tu la traitais de façon la plus simple en réalité, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bon, bah, on connaît la suite. Après, on a eu l'arrivée d'Internet, on a eu les premiers portables, hein. Alors, il y avait l'iPhone qui est arrivé en 2007, mais on a eu quand même quelques prémices avant avec des téléphones Ericsson. On a commencé à avoir les emails. On va dire que, voilà. Alors, j'avais une question, mais c'est vrai qu'à l'époque aussi, on avait ces techniques du flyer. Enfin, moi, je me rappelle à l'époque, on en discutait, on avait une RISO, pour ceux qui ont connu les machines RISO, duplicopieurs. C'est pas ça, non? Ça s'appelait des duplicopieurs, un truc comme ça.
C'est pas, mais
Et on sort...
c'est un bazar pas possible, mais on a
On sort...
connu la même chose.
On a sorti... on sortait des flyers comme des porcs. Des flyers, c'était dégueulasse. Mais on avait une devise. 10 000 flyers, on y va. Pam, pam, mais on... J'ai jamais autant distribué de flyers et tu enfin coupé d'arbres de ma vie, on va dire, hein, pour être très honnête. Je pense que tu as connu ça aussi, on a connu la même chose.
Ouais,
OK.
on a connu la même chose.
Ton quotidien aujourd'hui, justement, par rapport aux années 2000, est-ce qu'il a réellement changé pour toi?
Alors, moi, je suis très, très, très. Alors, je fais vraiment très attention au contact commercial. Donc, en fait, alors, je suis beaucoup sur les réseaux, comme tu le sais. Mais c'est vrai que le contact commercial est vraiment très, très important. Alors, oui, ça a changé parce qu'on ne va plus sur les magazines. Oui, ça a changé parce qu'on a tout sur Internet. On a les annonces qui arrivent tous les matins. Et donc, on peut savoir exactement le regard qu'on a, etc. On peut tout connaître tout de suite. Mais sinon, en tant que conseiller immobilier, je fais toujours de la reconnaissance de biens, je fais toujours de la pitch téléphonique, je fais toujours du porte-à-porte. J'ai changé ma méthode de porte-à-porte parce qu'à l'époque, en fait, bah, on formait mal les gens. Et moi, personnellement, je n'ai jamais été formé à l'immobilier. Et finalement, bah, j'étais formé au commercial. Et quand je suis rentré dans l'agence, on m'a dit, bah, ça, c'est un ordinateur, ça, c'est machin, ça, c'est un mandat. Et puis, tu remplis, et puis voilà,
Des
quoi.
flyers, sors dehors et vas-y, va taper aux portes.
C'est ça, c'est ça. Et là, ce qui est bien, c'est que ça fonctionnait. Ça fonctionnait à partir du moment où tu étais débrouillard, ça fonctionnait à partir du moment où tu avais compris le fonctionnement du truc, quoi. C'est-à-dire, ben, il faut parler avec des gens. Et donc, quand tu parlais avec des gens, ça fonctionnait.
D'accord, ok. Et tiens, tu as 50 ans maintenant, tu as un petit peu de bouteille. Est-ce que tu es capable, justement, avec l'arrivée d'Internet et tout ça, est-ce que tu es capable de me donner aujourd'hui tes ratios? En gros, par exemple, est-ce que tu sais aujourd'hui combien il te faut d'estimations? J'espère que tu as fait tes calculs. Hein. Combien d'estimations pour un mandat?
C'est marrant
C'est un
parce
pied
que
brun.
on en a parlé hier et hier je vais te dire quand même ce que j'ai dit hier parce que je suis quelqu'un d'authentique, d'accord?
Vas-y.
J'ai pas trop de ratio en fait parce que le fonctionnement du ratio est compliqué pour moi parce que on fait un métier qui est humain et à partir du moment où on fait un métier qui est humain, bah, des fois on va pouvoir partir en prospection et puis bah, ça va bien se passer, on va rentrer une affaire ou machin, et puis des fois on va pas en rentrer, et puis des fois on va avoir une info et finalement ça va pas se faire. Tu vois, hier on m'a donné les coordonnées. Hier, voilà, je te donne un exemple. Hier j'étais en prospection et puis je me balade dans les rues, je sonne aux portes, tout ça, machin. Et puis à un moment donné, je rencontre une ancienne collègue d'une autre agence sur Saint-Maur, et puis j'étais devant une maison qui est à vendre. Et donc, elle me dit, ah, ben, vous êtes aussi dessus et tout. Je fais, ben non, en fait, ça fait très longtemps que j'essaye d'avoir les coordonnées, j'y arrive pas. Pourtant, je mets des papiers dans les boîtes, tout ne me répond pas. Elle me dit, attendez, bougez pas, j'ai les coordonnées de la dame. Et donc, elle me donne un téléphone. Donc, je récupère le téléphone, j'ai l'info du téléphone, j'appelle, mais elle ne me répond pas.
Et t'as joué au loto après?
Comment?
T'as joué au loto après, j'espère.
Non, non, non.
Non, même pas.
Mais. Non, bah non, parce que de toute façon, voilà, donc après, je vais rappeler, mais à un moment donné, tu deviens saoulant. Donc, tu veux une info, ce n'est pas forcément une affaire. Et donc, les ratios, c'est assez compliqué par rapport à ça. Moi, je dis que tu connais Olivier Hamou, on en a déjà discuté, tu m'as dit
Oui.
que j'étais, voilà. Et en fait, un jour, j'ai travaillé un peu avec lui, et un jour, il m'a dit, c'est dingue, Alex, parce que tu ne travailles pas beaucoup, et pourtant, tu rentres, à chaque fois que tu rentres une affaire, c'est une affaire sérieuse, et elle se vend derrière. Et donc, pas beaucoup, ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas un acharné du travail, mais par contre, quand tu rentres, quand tu vas en rendez-vous, en général, tu rentres l'affaire. Donc, du coup, je peux te dire que les ratios, en règle générale, ils sont plutôt bons. À partir du moment où je sais que derrière, je vais avoir une personne qui va être à l'écoute, et moi, je vais être à l'écoute de ses besoins et qui a un vrai projet. À partir du moment où c'est là, où il y a un vrai projet, il y a ci, il y a ça, et ben c'est bon. Voilà. Après, les ratios, on va dire, allez, on va dire que peut-être 3 sur 4. Voilà. Il me faut.
Quatre estimations pour un mandat exclusif.
Pour un mandat exclusif, peut-être. 4 estimations pour un mandat exclusif. Ouais.
Alors, est-ce que sur le chat, il y a des gens qui peuvent nous donner des chiffres nationaux sur combien d'estimations ? Est-ce qu'il y a des gens d'ailleurs qui nous écoutent qui peuvent nous dire aujourd'hui combien d'estimations aujourd'hui il vous faut pour entrer un mandat exclusif ? Alors, je dis mandat exclusif parce qu'en réalité, c'est ce qui est le plus probant pour ce type de ratio. Juste pour revenir sur la partie ratio, parce qu'on en a discuté un petit peu, et c'est vrai que l'avantage du ratio, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on n'est pas à l'usine. En revanche, pour moi, un ratio, ça peut avoir un bénéfice, c'est de comprendre les choses qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'à un moment, tu fais 3 estimations, tu t'es donné comme un dingue, tu as fait un argu de folie. Alors, généralement, voilà, tu dis, tu ressors, tu fais, c'est bon, c'est dans la poche. Et puis, 2 jours après, le gars, il a filé à une autre agence. Et là, tu dis, mais c'est un gros nul, ce mec. Il est nul, quoi. Non, c'est peut-être toi qui es nul, tout simplement. Mais c'est aussi intéressant en cela, les ratios, c'est d'avoir cette capacité, justement, à prendre du recul et se dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Voilà, si forcément, tu as cette estimation et tu rentres rien, tu as un problème. Voilà, c'était juste pour faire un petit aparté.
En fait, pour t'expliquer, moi, je pense que quand je me trompe, c'est-à-dire quand la personne ne me prend pas ou n'importe quoi, je vais toujours lui demander pourquoi. Et je vais te raconter une petite anecdote. Un jour, j'ai quelqu'un que je connais qui me dit, tiens, j'ai ma copine qui va vendre son appartement, enfin, qui va vendre l'appartement de sa maman qui est sur Saint-Maur. Il me dit, bah, je vous ai recommandé. Super, donc j'y vais tout en vainqueur. Tu vois, je suis recommandé par quelqu'un, logiquement, ça devrait bien se passer. Et quand je rentre dans l'appartement, je me dis, mais cet appartement, je le connais. Et elle me dit, ah bon, vous le connaissez ? Oui, je lui dis, vous ne l'avez pas acheté chez La Forêt il y a une dizaine d'années ? Elle me dit, bah si, c'est ma maman, elle l'a acheté par La Forêt qui était là-bas, à l'agence là-bas. Je lui dis, bah c'est normal, c'est moi qui tenais l'agence. Ah ok, machin. Et je lui dis, et on continue à discuter comme ça. Et puis à un moment donné, je regarde le titre de propriété et puis je regarde le prix et je lui dis, ah ouais, elle l'avait acheté assez cher quand même, votre maman. Et là, elle dit rien. Elle dit rien, machin. Et puis je continue mon petit truc. Et puis, 4, 3, donc je fais l'estimation, je vais la voir, je lui donne l'estimation. Et là, elle me dit, vous savez, je ne vais pas vous choisir. Je fais, ah bon, mais pourquoi ? Elle me dit, bah, parce que, en fait, la dernière fois que je vous ai vu, vous m'avez dit que ma maman, elle l'avait acheté cher, l'appartement. Mais c'est vous qui lui avez vendu. C'est-à-dire que vous lui avez vendu quelque chose de trop cher. Et là, je ne savais plus trop quoi répondre, en fait. Je lui ai dit, bah oui, mais bon, c'était le prix du moment, peut-être, machin, tu vois. Et en fait, parce que j'ai parlé trop, j'ai dit une phrase de trop, et ben, elle ne m'a pas donné le mandat.
D'ailleurs, je pense que tu as un conseil que tu connais aujourd'hui, c'est que quand on fait une estimation, il faut écouter les gens, quoi.
Bien sûr.
Le meilleur des vendeurs, c'est celui qui écoute et qui dit rien. Et c'est vrai que ça, c'est souvent une erreur de pouvoir… on a toujours peur quand on fait des estimations de combler le vide. Mais en réalité, c'est de poser les bonnes questions et de laisser parler les gens. Et ça, le meilleur des vendeurs, il vous dira toujours ça.
Bien sûr. Mais des fois, une phrase, c'est vite parti quand même.
Ah, ça, c'est sûr. OK. Maintenant, données sur le terrain. Comment tu l'exploites aujourd'hui, ta donnée sur le terrain ?
Alors, moi, j'utilise Notion.
D'accord.
Tu dois connaître. C'est-à-dire que je me suis fait une base de données sur Notion que j'ai sur mon téléphone et que je peux récupérer ensuite sur mon ordinateur. Et en fait, je me suis fait tout simplement une base de données par rue avec les numéros pairs et les numéros impairs. Donc, quand je suis sur un trottoir pair, on me donne tous les numéros pairs de la rue Intel. Et comme ça, ensuite, derrière, je peux savoir, monsieur machin, je l'ai vu le 18 du mois dernier, il m'a dit ça, etc. Monsieur, je ne l'ai pas vu, je lui ai laissé un flyer. En fait, tout est noté dessus.
D'accord.
Donc, c'est comme ça que je récupère les données.
Et du coup, après, comment tu t'organises ? En réalité, tu fais ça par îlot ? Tu fais ça à l'opportunité ?
Non, j'ai créé des îlots autour de chez moi, parce que je travaille autour de chez moi. Donc j'ai créé des îlots. Alors c'est difficile de dire, je sais que des fois on va se dire, bah tiens, si on sort on va aller dans l'îlot A, l'îlot B, l'îlot C ou peu importe.
Ouais.
En général, moi, quand je sors, je fais une rue, deux rues, pas plus, parce que ça va pas plus vite, en fait. Donc, je fais rue par rue, parce que quand tu fais toutes les portes et que tu discutes avec des gens, bah, ça prend du temps. Mais c'est vrai que c'est organisé effectivement par îlot. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et derrière, en fait, ce que je fais, c'est... Excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, vas-y, vas-y.
Ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai le cercle proche, si tu veux, mon premier cercle, qui est pas loin de chez moi. Et ensuite, j'ai un deuxième cercle. Et quand j'envoie des flyers, j'envoie des flyers dans le premier et dans le deuxième cercle. Mais le deuxième cercle, je ne prospecte pas. C'est juste pour me faire connaître, en fait, par les flyers.
C'est assez fastidieux. Hein.
Ouais.
C'est assez fastidieux
en fait,
parce que
le métier d'agent immobilier, c'est fastidieux.
Moi, je me rappelle quand, pour la petite histoire, pour ceux qui me connaissent, en réalité, voilà, j'ai une agence. Enfin, j'ai, on va dire, capitalistiquement toujours une agence. On va dire qu'elle est maintenant gérée par d'autres personnes. Mais donc, dans l'immobilier, j'ai toujours été dans l'immobilier. Et moi, je me rappellerai toujours dans les années 2000, le jour où je me suis dit, il faut que je change, c'est qu'on. On s'aperçoit que quand on fait de la prospection, on est extrêmement organisé. Hein, on a tous connu des paperboards avec nos plans de la ville. On avait stabiloté avec les îlots. On avait des tableaux de température. On avait des passages tous les 45 jours. Voilà. Et en réalité, à un moment ou à un autre, je me suis retrouvé, parce que je gérais une équipe, et je disais à mes équipes, allez les mecs, on y va. Et tous les jours étaient un éternel recommencement, parce que c'est vrai que dire à un mec dehors, prends des flyers, il va taper aux portes avec la fameuse phrase « Bonjour madame, je suis Frédéric Epler, agent immobilier de l'agence. » J'ai vu qu'il y avait j'ai vendu un bien à côté là, ça ne serait pas vous par hasard? Non, ce n'est pas moi. Ok, au revoir, boum. Et c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, je me suis retrouvé devant ce tableau et je me suis dit, c'est pas possible quoi, je récolte des données et je ne peux pas les exploiter. Et ça m'a complètement découragé à me dire qu'en réalité, je suis en train de dire aux gens, va le faire. Et en réalité, moi-même, je n'ai pas envie de le faire parce que je suis impuissant face à ça. Et voilà, c'était pour voir un petit peu toi, comment tu vivais aujourd'hui cette prospection.
Alors moi, à l'époque, très, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait de récolter de la donnée. Donc tu vois, on en a parlé la dernière fois, il y avait un logiciel qui s'appelait Access, qui était fait par Word, Microsoft. Et donc, j'avais déjà programmé, alors c'était nettement plus compliqué que Notion, hein. J'avais programmé des tables et tout avec des renvois sur d'autres tables, etc., sur cette base de données, parce que j'avais vite compris que il était essentiel de connaître réellement qui on avait dans notre secteur, et qu'une personne chez qui tu passes et qu'elle va te dire « j'ai pas de projet » ou peut-être dans un an, et un an après, il fallait y penser. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, j'ai vite pensé à tout ça. Maintenant, clairement, je suis quand même… moi, j'aimais bien cette période où, effectivement, il y avait les gros plans de la ville et tout, où chacun griffonnait quelque chose, etc. Parce que il y avait l'ambiance, il y avait l'énergie, il y avait tout ça. Et la personne qui disait « j'ai rentré un mandat là, un truc là, et machin ». Et moi, j'adorais ça. En tant que conseiller immobilier, quand on est en mandataire indépendant, c'est un peu différent. On a moins cette vue de l'équipe. Maintenant, clairement, il faut récolter de la data. La data, elle est essentielle aujourd'hui.
Essentielle.
Parce que si on ne la récolte pas, elle est perdue. Et donc, forcément qu'il faut récolter de la data. Aujourd'hui, on a moyen de récolter de la data. Il y a plein de gens qui ne savent pas, par exemple, qu'on peut aujourd'hui récolter la data des DPE. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'en fait, on sait que lorsqu'une personne fait un DPE aujourd'hui, le diagnostiqueur, il la met sur un fichier. Il inscrit cette personne sur un fichier. Et ce fichier-là, aujourd'hui, est disponible sur Internet. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur une formation qui est proposée par un gars il y a une semaine. Cette donnée, elle est hyper intéressante quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moyen, en récupérant de la data, de rendre efficient notre prospection, c'est-à-dire travailler moins pour finalement toucher plus.
Surtout que la data, on en voit tous les jours. Par exemple, tu fais un contrat de location, tu as des cartes d'identité, tu fais un contrat de vente. Combien de personnes aujourd'hui lorsqu'elle signe un contrat de vente, note s'il y a des enfants, note l'âge des enfants, parce que voilà, note l'âge du couple qui achète. Enfin, il y a une donnée qui est monstre aujourd'hui qui n'est pas du tout exploitée. Et c'est vrai que c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, il y a des outils merveilleux qui le proposent et que malheureusement, c'est pas. Voilà. Si tu avais un conseil à donner aujourd'hui à un gars qui est seul, un mandataire, alors pas une agence parce que c'est un peu différent, elle est managée, quoique. Il y aura aussi bien besoin de conseils aussi. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner, le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un pour qu'il sorte aujourd'hui justement, qu'il sorte justement prospecter, prendre du plaisir, quoi. C'est voilà, de lui donner un sens à faire ça, quoi.
C'est de ne pas être bloqué sur la prise du mandat ou sur forcément le bien qui est à vendre, en fait. Aujourd'hui, on prendra beaucoup plus de plaisir à discuter avec les gens, à communiquer avec les gens, que si on est trop bloqué sur le fait qu'on recherche absolument un bien qui est à vendre. Quand j'ai démarré le métier, et pendant des années et des années, et encore aujourd'hui, quand je discute avec des gens, je leur demande comment ils font, c'est « Oui, bonjour, je suis conseiller immobilier, je voulais savoir, est-ce que vous connaissez un bien qui serait à vendre dans le quartier ou dans votre voisin ou... ?» J'ai entendu dire qu'il y avait un bien qui était à vendre, est-ce que vous le connaissez ? Toutes ces techniques-là, c'est des techniques aujourd'hui qui ne fonctionnent plus. Déjà, c'est des questions fermées. Lorsqu'on parle avec des questions fermées, bah, on va avoir un oui ou un non, et clairement, la plupart du temps, on a un non, d'accord ? Ou alors la personne va dire « Mais si, il y a un panneau là-bas au plus loin, mais celui-ci, on l'a déjà vu, on le connaît déjà. »
Non, mais je te pose une question quand même. Aujourd'hui, il y a des écoles de formation qui ont évolué dans l'immobilier. On leur apprend quoi ?
Sincèrement, franchement, je pense qu'on ne leur apprend pas ça. Franchement, je pense qu'on ne leur apprend pas ça. Parce que moi, je discute avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseillers et une vraie mise en place, une vraie stratégie de porte à porte, il y en a très peu qui l'ont, vraiment. Donc, clairement, aujourd'hui, oui, prenez plaisir à taper aux portes, à discuter avec les gens. Alors, bien sûr, moi, j'y suis allé hier encore. Oui, bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle. Non, mais je n'ai pas envie de parler. OK. D'ailleurs, c'est un truc, j'étais avec un collègue.
Ouais.
Et à un moment donné, en rigolant, on devrait créer les blablas. Qu'est-ce que c'est que les blablas ? Ben, les blablas, c'est les gens qui ont envie de parler. En fait, finalement, on devrait avoir sur notre boîte aux lettres une petite pastille blabla. Et quand tu as la petite pastille blabla, tu sais que la personne, elle a envie de discuter, elle a envie de parler. Il y a des gens qui ont envie de parler et des gens qui n'ont pas envie de parler. Donc, l'idée, c'est d'aller découvrir tes blablas du coin. Une fois que tu auras découvert tes blablas du coin, eh ben, tu es le plus heureux. Parce qu'aujourd'hui, en fait, moi, si j'ai envie de passer un bon moment, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais prospecter, je vais aller dans une rue, dans ma rue que j'ai prévu d'aller prospecter, que je connais, ben je ne vais pas aller voir les gens qui m'ont fermé la porte au nez. Je vais plutôt aller voir les blablas. Et le blabla va peut-être m'ouvrir la porte de la personne qui m'a fermé la porte au nez. Parce qu'en fait, une fois que je suis connu vis-à-vis du blabla, qui lui aime bien discuter, parler et connaît tout le quartier, ben lui, peut-être qu'il va m'ouvrir derrière la porte de la personne qui m'a fermé la porte au nez. Donc il faut prendre plaisir et il faut surtout essayer de gamifier un peu la prospection. Donc voilà, moi c'est ma façon un peu de gamifier le truc, d'accord. C'est d'aller chercher les blabla.
D'accord, ok. On avance sur ce sujet-là. Alors s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser.
Ouais, j'ai vu qu'il y en avait une là.
J'en avais une. Bien ça.
Votre CA annuel.
Ça, c'est pour toi.
Ligne de vente. Bah, écoute, appelle-moi, contacte-moi et puis je te parlerai de tout ça.
Voilà. On compte généralement quoi en moyenne sur une, on va dire un conseiller aujourd'hui. Un conseiller qui est débutant, il fait quoi dans l'année ? Il fait. Alors, moi, je donne un recul par rapport à l'agence où je vois les chiffres. Il y a peut-être une façon de manager qui est un peu différente, mais c'est quoi ? C'est un conseiller qui commence, il va arriver à quoi ? À peu près à 5 ventes dans la première année ?
Bah, ça dépend si c'est un conseiller en agence ou un conseiller mandataire.
Est-ce qu'il y a une réelle différence ?
Ah oui, moi je pense qu'il y a une vraie différence. Ouais.
Tu penses qu'un mandataire aujourd'hui a moins de chances
C'est plus difficile.
C'est plus difficile, hein ?
C'est plus difficile parce qu'une personne qui est en agence, il dispose du fichier de l'agence.
et puis de la vitrine, de la notoriété locale déjà.
La notoriété de l'agence, du fichier de l'agence. Derrière, il dispose de... quel est votre contact ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il dispose aussi d'acheteurs, de vendeurs, c'est-à-dire de mandats qui sont déjà dans l'agence. Donc oui, c'est plus facile. Un mandataire qui démarre, eh ben, il n'a pas de fichier, il n'a pas d'acquéreur, il n'a pas de vendeur. Donc forcément, c'est plus difficile, c'est beaucoup plus long. Je dirais qu'un chiffre d'affaires, même d'un débutant aujourd'hui en agence, je pense qu'il peut atteindre les 100 000 euros en agence. Un mandataire, il aura beaucoup plus de mal. Je pense qu'un débutant, tu peux compter sur, on va dire, entre 40 et 50.
Entre 40 et 50, d'accord. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu regardes bien, c'est là où tu vois peut-être parfois le décalage. C'est un petit aparté, mais en réalité, moi, j'ai vu un gros décalage dans nos accompagnements. Les mandataires sont très, très demandeurs parce que justement, ils n'ont pas cette visibilité et on a énormément de demandes de mandataires, notamment sur les tunnels de vente, parce que là, c'est la partie digitale, parce que justement, ils n'ont pas cette visibilité-là. Et on n'a pas cette curiosité au niveau agence, ce qui est bien dommage, parce qu'en réalité, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire. Hein. Mais c'est vrai que je confirme un peu ce décalage. Je trouve aussi qu'on a aujourd'hui une volonté au niveau des mandataires qui est bien plus importante d'exister qu'à un moment ou à un autre, une agence qui a parfois tendance à se laisser un peu vivre. Est-ce que tu es d'accord un peu là-dessus ou pas?
Ben, en fait, le mandataire, on lui demande de s'extérioriser. Il est tout seul. Le mandataire, c'est un peu l'homme orchestre. Aujourd'hui, si demain, par exemple, je vais travailler au sein du réseau La Forêt, je vais avoir le branding La Forêt autour de moi, ce qui est normal. Mmh. En fait, je dis toujours, si le branding de l'agence est plus fort que votre nom, utilisez le branding de l'agence. Si le branding du réseau dans lequel vous êtes mandataire est plus fort que votre nom, utiliser bien évidemment le branding et le nom du réseau. Ouais, si le nom du réseau n'est pas connu, vous n'avez, c'est un peu direct quand même.
Moi j'ai jamais eu ça. Hein.
elle me demande mon 06 direct comme ça.
Je lui donne 06 85 32.
C'est un peu direct quand même, ça light. Ouais, okay, c'est pas très light.
Donc du coup, on va. Petite transition justement sur les changements de comportement du consommateur, parce que c'est vrai qu'entre 2000 et aujourd'hui, il y a quand même il y a une révolution dans la façon de consommer. Quand tu as constaté aujourd'hui ce changement, est-ce qu'il y a un moment précis justement où ce changement a impacté ta manière de travailler? Alors, pour donner des pistes, on a dans le changement de consommation, on a quand même des éléments qui sont arrivés. On a la 3G qui arrive en 2000, on a eu les portails qui sont arrivés en 2010, on a eu les iPhones en 2007 qui ont radicalement changé la façon. On a eu l'iPad, est-ce que toi, il y a un événement là-dedans qui t'a le plus marqué et surtout qui a plus marqué ton business en réalité?
Alors moi, j'ai été marqué par l'arrivée du HDR, de la photographie en fait. Et donc, ça arrivait à peu près… Alors moi, quand j'ai créé mon agence, je l'ai créée en 2009. Et ça s'appelait Visite en vue. Et dans Visite en vue, il y a les vues. Ça voulait dire deux choses en fait. C'est-à-dire, je vais vous amener des visites, mais c'est aussi je vous fais des visites en vue, avec des vues. Et donc, il fallait absolument que je fasse de belles photos. Et j'étais allé en fait sur un site qui s'appelle Duproprio, un site canadien. J'avais repéré en fait qu'il faisait de très très belles photos. Donc en grattant, en cherchant et tout, j'avais trouvé le fournisseur et je l'avais appelé. Et donc j'ai été un des pionniers de la marque Exposio en France. Personne l'avait quasiment. Il y en avait un ou deux sur Paris. Ils faisaient du très haut de gamme. Et moi j'étais quasiment un des pionniers en France. Et donc forcément,
c'était le pivot.
Ça a été vraiment mon pivot pour mon activité. Ça a été de faire des très belles photos. Après, ça, c'était le côté positif. Le côté négatif, ça a été effectivement l'arrivée pour nous, quand on était conseiller immobilier, c'était l'arrivée des smartphones et surtout des alertes mail. Des alertes SMS, des alertes mail, où le client qui cherche un 3 pièces, il a tout de suite l'information par le Bon Coin ou par le PAP qu'il y a un 3 pièces qui est arrivé avec des photos en couleur, etc. Alors que nous, quand on travaillait avant, c'est nous qui faisions ce boulot-là. Et donc, forcément, il a fallu changer ma façon de travailler, prendre plus d'exclusivité qu'avant, parce que du coup, avant, on pouvait prendre un mandat simple, il y avait moins de concurrence de toute façon, on était quasiment sûr de le vendre. Et plus ça va, plus ça devient compliqué. Donc, il faut.
Attends, il y a quand même un élément qui est important quand même. 2010, l'arrivée des portails. Tous ces portails qui étaient sur les papiers, alors avant Draloui, il a loupé un peu le coche, mais Sologé aujourd'hui, en 2010, il a apporté, entre guillemets, il a apporté une solution aujourd'hui qui a complètement captivé. Alors, 2010, sachant que les iPhones sont arrivés en 2007, qui a donc complètement bouleversé la façon de consommer le web, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2010, les portails arrivent. C'est eux qui inventent la techno et ils disent aux agents immobiliers, vous ne savez pas faire, ce n'est pas grave. Vous allez payer et nous, on va vous donner des leads, etc. Et ça, pour moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. En fait, parce que...
Meilleur agent. Meilleur agent pour les estimations. En fait, à un moment donné, nous, on était là pour informer les gens et presque à un moment donné, en fait, les gens étaient plus informés que nous. Enfin, pensent être mieux informés que nous. Ce qui n'est pas le cas. Mais n'empêche qu'ils le pensent vraiment. Et donc, et alors qu'avant, il n'y avait pas ce problème-là. Avant, quand on avait besoin d'un crédit, on allait voir le banquier. Maintenant, on tape sur son ordinateur. Donc, les gens qui arrivent là depuis 2, 3 ans, 5 ans, ou un peu plus, ils ont déjà vécu tout ça. Nous, on a vécu vraiment l'évolution. Et donc, je pense que c'est plus dur pour des gens comme nous que pour des gens qui arrivent aujourd'hui et qui s'adapte au marché.
Alors là, je vais lancer un pavé dans la mare. En réalité, quand on regarde bien aujourd'hui l'avènement du web, l'arrivée des portails, c'est une discussion qu'on a eue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, les gens vont me dire « Non, c'est pas la crise, Fred. » Non, bon, on va appeler ça un chat, un chat. Le marché est plus compliqué, c'est les taux augmentent, c'est l'inflation. Bon. C'est beaucoup plus compliqué. On est sur une période plutôt de crise que de bonheur en soi. Hein. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a un agent immobilier qui est considéré par un propriétaire aujourd'hui comme quelqu'un qui va faire quoi ? Qui va faire de la pige, prend le mandat, prend des clés, fait des visites et fait une négociation. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, l'arrivée d'Internet, elle n'a pas… maintenant le savoir est accessible de tous, c'est ce que tu disais. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'a pas cassé la seule carte qu'avait en main l'agent immobilier ? C'est-à-dire, maintenant, il n'est plus le seul à avoir le Graal du savoir. Avant, on allait voir un agent. Moi, je me rappelle quand je bossais avant, les gens venaient nous voir, nous poser des questions, etc. Aujourd'hui, quand ils nous appellent, c'est un peu comme tu vas chez le médecin, ils te disent, monsieur, vous inquiétez pas, je sais ce que j'ai, donnez-moi ça. Et à un moment ou à un autre, c'est là où je veux en venir. À chaque crise économique, le principal impact chez un agent immobilier, c'est la com. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce que disent vos propriétaires lorsqu'ils ne vendent pas ? Ils disent « Ah, tu te rends compte, chérie ?» En réalité, la marge de négo, c'est la com de l'agence.
Ça, c'est ce qu'ils pensent. Et c'est vrai que les gens pensent en fait tout savoir. Quand ils sont au début de leur vente, de leur mise en vente, en fait, c'est simple. C'est-à-dire qu'on va mettre ça on a notre iPhone, on va mettre ça, on va prendre en photo, on va prendre des belles photos, on va mettre ça sur Internet. Et puis, on va avoir des appels, on va faire des visites. Et puis derrière, de toute façon, on est bordé par le notaire, donc on risque rien. Ça, bien évidemment, c'est ce qu'ils pensent et c'est tout à fait humain. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, en fait, effectivement, il y a l'euphorie du truc. C'est-à-dire, non, mais vous ne servez à rien, on va mettre tout ça sur Internet, machin, on sait mieux que vous. Mais au bout d'un certain temps. Et en fait, ce certain temps, en fait, des fois, il dure très peu de temps. Tout dépend finalement à quelle expérience ils vont avoir. Si par exemple, ils ont tout de suite des particuliers où ça se passe mal, qui sont en retard, qui salissent le bien parce qu'ils ne font pas attention, etc., etc., ou qu'on n'a rien à faire. Ces gens-là, à un moment donné, ils vont peut-être vite passer côté agence. Et puis, il y en a d'autres qui vont mettre peut-être plus ou moins longtemps. Mais dans tous les cas, à un moment donné, ils vont arriver dans la vallée du désespoir. J'aime bien ce mot, c'était Sébastien Tedesco qui disait ça. À un moment donné, eh ben, tu tombes dans la vallée du désespoir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Ben, tu n'as plus de contact, tu es désespéré parce que ça ne fonctionne pas. Et c'est là où tu te rends compte que l'agent immobilier, eh ben, il sert à quelque chose. C'est là où tu te dis, bah, ouais, en fait, finalement, l'agent immobilier, lui, il va savoir en fait, gérer les clients, il va savoir peut-être nous amener les bons clients et peut-être aussi vérifier la solvabilité financière de l'acquéreur. Parce que c'est facile, finalement, de trouver un acquéreur, mais qui n'aura pas son crédit.
Maintenant, mets-toi à la place d'un propriétaire. Tu fais une estimation. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner? Parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe? L'agent immobilier, conseiller immobilier, peu importe le nom, aujourd'hui, quand il est face à un propriétaire, quand il décrit son offre, hein, quand il décrit son offre, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire aujourd'hui, monsieur, je vous offre l'estimation, je vous offre les diags, je fais exprès de bousculer. Voilà, je vous offre les diags, je vais faire une photo 3D, je fais du Matterport, je vais le mettre sur ce loger. Bon, comme tous les gens d'ailleurs. Mais réellement, est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est suffisant aurait été...
Mais non. Qu'est-ce
que tu donnerais comme conseil aujourd'hui?
C'est d'écouter, c'est de poser les bonnes questions. Pourquoi? Ben parce qu'à partir du moment où on écoute les gens et qu'on pose les bonnes questions, on va savoir comment se passe sa vente. Si effectivement il y a des frustrations, des frustrations passées, parce que c'est peut-être pas le présent, c'est peut-être des frustrations passées sur ce qui s'est passé il y a 6 ans quand ils ont mis en vente et que ça s'est très mal passé. Et donc à un moment donné, à partir du moment où on va questionner les gens, on va pouvoir derrière noter tout ça. Et au moment où on va proposer notre mandat, juste avant de proposer notre mandat, et ben à ce moment-là, on ne va pas lui dire, moi, ce que je vous propose, c'est de le mettre sur, de vous faire des photos Matterport ou des visites virtuelles Matterport. Ils n'en ont rien à faire de tout ça. Par contre, d'aller rechercher les frustrations et de mettre les mettre en valeur, si tu veux, comme si on stabilotait les frustrations et on leur disait, OK, mais rappelez-vous, la dernière fois, vous m'avez dit que ça s'était passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voulez qu'on travaille maintenant? Et là, forcément, la personne va vous dire non. Et c'est là où ça peut être intéressant de voir. Parce qu'en fait, ils n'en ont rien à faire. Moi, quand je suis chez un client, je ne lui dis pas, je vais sur ce loger, je vais faire ci, je vais faire ça. Ils n'en ont rien à faire. Tout le monde le fait. Et d'ailleurs, ce que je leur dis souvent, c'est, écoutez, je ne vais pas répéter ce que vous avez déjà entendu 10 fois. Ça ne sert à rien. Forcément, je fais des belles photos. Forcément, je fais ci. Forcément, je fais ça. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de mettre en valeur 1 ou 2 points qui, par rapport à ce que vous m'avez dit, pourraient être intéressants pour vous. Et là, je vais vraiment aller chercher les frustrations et je vais vraiment tirer en fait l'essence même de ce que j'ai pu du questionnement que j'avais fait avant.
D'ailleurs, il y a un point qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'en réalité, déjà, tu préconises un R1 et un R2.
Bien sûr.
Et puis, il y a un élément qui est important quand on fait du R1, R2. Alors, c'est vrai que ça va moins vite. Mais par contre, il y a un point qui est très intéressant et ça, il faut bien garder ça à l'esprit. En gros, les gens, on essaie toujours de leur vendre ce dont, a priori, ils ont besoin. Et ça, je dis toujours, on ne vend pas aux gens ce dont ils ont besoin. Personne n'achète ce dont on a besoin. On achète ce qu'on veut exactement. Et le fait de poser cette question-là sur les frustrations, ça permet de mettre le point sur justement ce qu'ils veulent réellement. C'est-à-dire que parfois, on est à côté, on se dit… Ils veulent aujourd'hui qu'on fasse une super photo, une vidéo de leur bien, etc. Et alors qu'en réalité, ce qu'ils veulent réellement, c'est complètement différent. Et ça, je le dis aux auditeurs parce que quand on crée une offre, ce n'est pas un ensemble de prix, une offre. Ce n'est pas un ensemble de « je vais faire ci, je vais faire ça ». Une offre, il faut bien garder ça à l'esprit, c'est cette capacité à un moment ou à un autre de résoudre le problème ou d'apprendre à résoudre le problème pour ce qu'est son business. Donc, bien sûr, le problème de votre cible. Et ça, c'est hyper important. Et une fois que vous avez ça, on définit ce qu'ils veulent et vous leur vendez ce qu'ils veulent. C'est ça. Donc, si aujourd'hui, ils veulent entendre ça, il faut leur vendre ça. Et c'est vrai que tu as raison. Balancer comme sur la carte d'un restaurant chinois l'intégralité des trucs qu'on met en place, ça n'a aucun intérêt. Et puis, ça peut même passer à côté parce que voilà.
Ben non, ça ne sert à rien en fait. On n'est pas des vendeurs de prestations. Et donc, à partir du moment où on a compris ça, Moi, je travaillais dans un réseau où on distribuait, on montrait tout. Voilà, il y avait un book, il fallait sortir tout le book du truc en disant bah, tiens, on va sur ça, on va sur ce Logikimo, on va sur ce loger. Ouais, mais tout le monde le fait en fait. Donc clairement, ce n'est pas le but en fait. Ce qui va intéresser les gens, pour moi, ce qui va vraiment intéresser les gens, c'est une fois qu'on les aura écoutés, c'est vraiment répondre à leurs besoins. Et c'est là où on va pouvoir utiliser la stratégie du son CAS, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie et environnement, le petit dernier. Mais clairement, aujourd'hui, on ne peut pas argumenter de la même façon même des photos avec un gars qui est dans la sécurité ou quelqu'un qui est dans l'argent. Ce n'est pas la même chose. Mais combien de conseillers immobiliers aujourd'hui réussissent à déjà calibrer ça, font attention à ce fameux son CAS qu'on apprend en école de commerce et qui, derrière, en fait, vont pouvoir changer leur argumentation en fonction de la personne qu'on a en face de nous.
Alors, je regarde, il y a pas mal de questions. On répondra aux questions tout à la fin. Ça sera plus simple que le faire maintenant. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Merci. Oui, alors c'est vrai que quand tu parles de son CAS, moi, ça m'a toujours gonflé, ces trucs-là, son CAS, machin. Non, arrêtez, moi, j'ai... Ouais, je sais, mais c'est comme quoi, c'est propre à chacun. Moi, je suis de la vieille école où j'ai appris un peu. Alors, j'ai... Pour ceux qui me connaissent, j'étais un ancien RA immobilier. Ça arrive, c'est pas grave. C'est bien, moi, j'ai été à l'école RA, qui était une bonne école, comme le fait Century et autres. Et c'est vrai qu'on nous a appris toutes ces techniques-là. Mais en réalité, ce que j'ai appris avec le temps surtout, c'était de me dire, OK, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est servir mes clients. Et je pense qu'aujourd'hui, on a perdu cette notion-là. C'est quoi ? On est des commerçants, on veut servir nos clients. Celui qui va voir au bout d'un moment un propriétaire et qui ne se met pas dans le crâne, on veut servir nos clients, il faut qu'il arrête de bosser, il faut qu'il change de métier. Ça, c'est petit aparté. Et on va embrayer sur la dernière question. C'est justement les nouvelles technologies. Est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est une opportunité ? On a vu quand même que depuis 2000, il y a eu énormément de choses. Les portails web en 2000, 2004 Facebook, 2005 YouTube, 2007 l'iPhone, 2014 l'iPad, 2011 le fameux Zoom, qui a explosé en 2020 avec le Covid, d'ailleurs YouTube aussi. C'est quoi là-dedans les innovations qui t'ont le plus marqué justement entre 2000 et maintenant sur ceux que je viens de te citer ?
Je pense que beaucoup d'innovations m'ont marqué. Je pense qu'on les a tous suivis les uns après les autres en y croyant ou en y croyant moins. Facebook, Instagram... Maintenant, TikTok, où au départ, on disait que TikTok, c'était pour les gamins. Et puis maintenant, finalement, tout le monde s'y met. Moi, je pense que finalement, il y a eu beaucoup d'innovations. Encore une fois, l'iPhone, ça a été une véritable innovation. À partir du moment où on a réussi à commencer avec la 3G, où ça a commencé à devenir potable au niveau du débit.
De la connexion, ouais.
De la connexion. Maintenant, il y a toujours du plus et il y a toujours du moins là-dedans.
On verra le frein après. Donne-moi juste aujourd'hui
c'est de pouvoir tout avoir sur ton smartphone, pouvoir prendre des photos de tes biens pour pouvoir.
Donc l'iPhone. Donc l'arrivée des smartphones quoi avec
l'iPhone. Pour moi, ce qui a vraiment fait bouger les choses. C'est l'arrivée du smartphone, bien sûr.
Ouais, je suis d'accord, je rejoins aussi là-dessus. Ça a été vraiment je pense que j'ai été comme beaucoup de monde à l'avoir acheté parce qu'on avait cette façon de consommer qui était complètement différente.
L'arrivée de la 3G, parce que le smartphone sans la 3G, c'était catastrophique.
C'était un peu plus long. Disons qu'on attendait, attends, je vais te montrer un truc, bouge pas, je reviens.
C'est comme le Minitel, c'était comme le Minitel à l'époque, tu sais, où tu avais les trucs qui sont...
Et puis quand mais
les gens n'ont pas connu tout ça, le Minitel. Non.
Et quand tu tapais ton annonce, tu t'étais trompé, tu revenais sur une ligne, il effaçait tout. Et là, tu recommençais tout à zéro. Ouais. Justement, donne-moi un exemple que tu as appliqué dans ton business, justement. Comment aujourd'hui, tu as utilisé une de ces technos ? Alors, tu nous as parlé du HDR, mais sur une techno peut-être un peu plus actuelle.
Moi, j'utilisais Tunnel de Vente.
Ouais. Tu en as mis en place déjà ?
Comment ?
Tu as mis déjà des tunnels de vente en place ?
Oui, j'ai des tunnels de vente en place. J'ai le QR code.
Le QR code.
Donc, en fait, après, le tunnel de vente, il est bien parce que tu peux le partager sur Facebook. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le coupler à un QR code.
Alors, juste pour que les auditeurs comprennent, un tunnel de vente, parce que souvent, les gens font un peu l'amalgame, c'est quoi la différence entre un tunnel de vente et un site web? En gros, un tunnel de vente, c'est un ensemble de pages, donc une à deux pages généralement. Surtout, c'est une page que vous construisez qui n'a aucune source de distraction. C'est-à-dire que sur un site web, vous avez des menus, des boutons dans tous les sens. Généralement, vous avez des formulaires qui regorgent de demandes d'informations juste pour un pauvre truc. Et en gros, le tunnel de vente, il a cet avantage, c'est qu'il a un objectif, c'est de vendre. Un site web, c'est un objectif notoriété et lui, il va avoir un objectif, c'est de vendre. Donc, l'avantage du tunnel, c'est que vous faites passer quelqu'un dedans, il passe en visiteur, en lead et après, il vous achète quelque chose. Alors, bien sûr, dans l'immobilier, on ne vend pas de formation, pas des propriétaires, pas encore, peut-être que demain.
Si, ça se fait maintenant. Si, ça se fait de plus en plus.
Ça commence, ouais. En revanche, ce qu'on va surtout nous prendre comme du paiement, c'est du rendez-vous, par exemple. Donc, mettre sur une page un canon, etc.
Ben, voilà, c'est juste pour que les gens comprennent. La page de capture, elle permet éventuellement d'offrir un e-book.
Bien sûr.
Elle permet d'offrir une formation en vidéo. Pourquoi pas? Je vous donne mes 5 conseils pour pouvoir vendre votre bien le plus cher possible dans un délai le plus court possible. Et bien ça, on peut les donner aussi directement en vidéo. Donc, c'est plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce que la vidéo donne quelque chose. Tu vois, je parlais tout à l'heure de la jeune fille qui voulait mes coordonnées. Il y a quelque chose qui passe dans la vidéo. Tu vois, tout de suite…
Il y a une émotion.
Elle voulait mon téléphone et voilà, je ne la connais pas, mais en très peu de temps, elle a voulu mon téléphone. Et donc, forcément, c'est plus sympa d'avoir la vidéo que même un e-book. Et le fin du fin, c'est de créer un e-book avec à l'intérieur des vidéos. En fait, on peut faire plein de choses. À partir du moment où on prend conscience de la puissance de la machine, on peut faire énormément de choses. Et lorsque vous avez un flyer, vous mettez un QR code dessus, ce qui fait que les gens, ils vont flasher le QR code et puis
ils vont arriver sur la page.
À votre page de vente, à votre page de capture. Moi, j'appelle ça plus une page de capture. C'est une
page de capture,
bien sûr. Email. Et en contrepartie, ils auront droit à votre e-book, à une vidéo, à une formation, à plein de choses.
D'ailleurs, pour ceux qui veulent se renseigner, j'ai sur la chaîne YouTube Marketing Immobilier, j'ai fait pas mal de vidéos sur la playlist qui s'appelle Demande à Fred. C'est des questions qu'on me pose. Et avec mon paperboard, j'ai essayé d'expliquer au mieux le type de fonctionnement. Donc, si les gens sont intéressés, sur la chaîne YouTube Marketing Immobilier. Ok. Maintenant, on va parler un peu des freins. C'est quoi pour toi, donne-moi justement le frein. Est-ce que opportunité ou frein ? Alors, opportunité, on l'a vu parce que justement, le fameux flyer qu'on distribue qui va à la poubelle, et là aujourd'hui, au moins, on peut mettre un QR code dessus qui ramène sur une page web. Donc, on peut mesurer là concrètement combien de personnes j'ai touché ou pas. Et par contre, c'est quoi les freins ?
Alors, les freins du QR code ?
Non, les freins de la technologie en règle générale.
Ah, les freins de la technologie.
Les SMS, les téléphones.
On parlait tout à l'heure du smartphone. Le frein principal, c'est la rapidité des données, en fait, des informations qui passent, qui partent et qui, finalement, avant, il y avait vraiment l'intérêt, le véritable intérêt de passer par un agent immobilier. C'est quelqu'un qui connaissait vraiment son secteur, qui connaissait les prix de vente, etc. etc. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'y connaît un peu, qui touche un peu au truc, qui s'intéresse un peu à ça, il va aller sur des VF, il va aller sur des sites où on va lui donner tout de suite les valeurs des biens qui ont été vendus. Donc oui, il peut se passer de l'agent immobilier pour faire une partie des choses, notamment une estimation de maison. Aujourd'hui, il y a tellement de sites aujourd'hui qui proposent de faire des estimations de maison. Par contre, ce qu'il n'aura pas, c'est le vrai rapprochement qu'il va y avoir avec les acquéreurs. C'est-à-dire on peut estimer un bien en prenant en compte les ventes passées, mais par contre, on n'a pas accès aux fichiers acquéreurs. Donc, on ne sait pas ce que les acquéreurs sont prêts à mettre aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que l'agent immobilier, il a son rôle à jouer. Parce que nous, on est vraiment plus près du marché.
Est-ce qu'il n'y a pas un frein aussi, justement, lié à toute cette routine de travail ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un conseiller immobilier a du mal à sortir, a du mal à comprendre pourquoi il doit sortir ? Est-ce que justement, toute cette techno aujourd'hui, elle n'a pas servi un petit peu ce métier ? Parce que, par exemple, au moment de sortir, on prend son téléphone et on reste 3 plombes au téléphone au lieu de faire un truc, au lieu d'aller sortir. Parce qu'au bout d'un moment, au lieu de sortir, on lui dit « Oh, faut que tu restes sur l'ordinateur, sur le logiciel pour faire des rapprochements », comme si le logiciel avait besoin de lui pour faire des rapprochements. Mais là, c'est super important qu'il aille faire. En gros, est-ce qu'au bout d'un moment, cette technologie, elle a quand même un gros avantage, mais elle est peut-être mal utilisée, ce qui fait que du coup, on s'en sert peut-être un peu comme une excuse. Alors, j'aime bien le mot procrastiner parce que voilà, mais pour éviter de faire son job, quoi.
Avant, on n'avait pas le choix. Avant, on n'avait pas le choix. Il fallait sortir. Maintenant, effectivement, bah, c'est plus sympa de se faire une petite vidéo, de faire un petit truc, une petite danse sympathique sur TikTok, une petite vidéo de présentation, un petit truc, un petit machin, plutôt qu'aller sortir et essayer de discuter avec des gens et peut-être même de se prendre des portes ou des gens qui nous disent non. Donc, c'est sûr que ça, c'est jamais très agréable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on a cette attention. C'est ça où je voulais te dire. C'est-à-dire que le plus gros des problèmes qu'il y a aujourd'hui avec la digitalisation, c'est l'attention. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'attention a réellement baissé.
Donc, on est dans la distraction permanente, en réalité. C'est-à-dire que...
C'est ça, exactement. D'une part, et d'autre part, les gens qui reçoivent nos messages, ben, ils réagissent de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une vidéo TikTok, c'est 3 secondes. Aujourd'hui, une vidéo YouTube, c'est un peu plus long parce qu'on est sur YouTube et qu'on sait qu'on va peut-être regarder, voilà. Mais ça ne dépasse pas 10 minutes, 15 minutes. Mmh. Mais moi, j'ai mes stats hein, sur YouTube, c'est 15 minutes. Et 15 minutes, c'est des vidéos longues, hein, sur des vidéos d'une heure. Les gens ne restent pas plus de 15 minutes.
Ah, ce qui est très bien pour des vidéos.
Parce que c'est des vidéos longues et parce que c'est des vidéos explicatives, c'est des interviews. Mais sur des vidéos type de TikTok et compagnie, et des Reels, c'est 3 secondes. Et donc, la tension n'est plus là. Et donc, c'est pour ça que c'est très compliqué. C'est pour ça que sortir, c'est très important parce que c'est le moment où on est face au client. C'est le moment où on est face à la personne. Parce que même si il a pris notre flyer, même si il a scanné notre QR code. S'il reste que 3 secondes sur notre présentation, bah ça servit à rien, en fait.
On n'a pas créé de lien. C'est ça, c'est la création de lien, quoi.
Exactement, c'est la création de lien. Et donc, c'est hyper important de voir le client, le prospect, d'avoir ce lien avec ce client et ce prospect en direct.
Il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est vrai qu'à l'époque, quand il n'y avait pas les portables, on en discutait, c'est que il y avait le journal de l'agence, on allait prospecter, on nous appelait pas toutes les 5 minutes pour dire « En fait, j'ai besoin de ça. » On n'avait pas de source de distraction, ce qui faisait que concrètement, on faisait notre taf, on revenait, on était vachement efficient et on traitait dans le journal le petit calepin de l'agence, on traitait nos informations, on barrait, puis ça avançait. C'est ça, en gros. Hein. Mmh. Ok, ouais, c'est ok. J'avais une autre question, et c'est la dernière, c'était sous-jacent d'ailleurs, c'est pourquoi il y a autant de décalage, quand on voit depuis 2000 tout ce qui s'est passé au niveau technologie, alors on n'a pas parlé de l'IA parce qu'on pourrait en parler des heures, mais quand on voit ChatGPT, etc., c'est très marrant parce qu'en réalité, quand ChatGPT, qui est une boîte qui existe depuis longtemps en réalité, c'est vrai qu'on nous a dit ChatGPT c'est nouveau, mais ça faisait déjà 10 ans que ça existait, sauf que le truc était pourri avant, mais quand ChatGPT est sorti en France, on a sorti des articles, c'est la fin de l'agent immobilier, c'est le machin, etc., ou c'est pas bien, ouais, mais nous, on est mieux. Et en réalité, ce qui est souvent compliqué, et c'est peut-être ça le problème du décalage entre la technologie et les formations des conseils immobiliers, c'est quand il y a quelque chose de nouveau, plutôt que de se dire « Ah, ça peut nous aider peut-être à scaler notre façon de travailler », on va dire « Non, ça, c'est pas bien, nous, on est mieux. » Mais en gros, c'est ça qui m'intéresse, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a autant de décalage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des conseillers immobiliers t'en croisent régulièrement, moi aussi. Quand je parle, parce que moi, je fais des tunnels de vente, mais quand je parle de tunnel de vente et quand je leur explique l'intérêt du tunnel de vente, qui est un intérêt pour moi, c'est une opportunité, quoi. Ils vous disent, non, moi, c'est le bouche-à-oreille, moi, c'est le flyer. OK, c'est la pige. OK, le flyer, ça va être terminé, là. La pige, ça va être terminé aussi. Tu fais quoi ?
Je pense que ça ne va pas être terminé, ni le flyer, ni la pige, de moins en moins, parce que maintenant, il y a des gens qui bloquent la pige parce qu'ils mettent des messageries, des choses comme ça. Mais ça ne sera jamais terminé. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut évoluer. Ça, c'est sûr. Le porte-à-porte, ça n'empêche pas qu'on puisse aujourd'hui encore taper à une porte ou sonner à une sonnette. Mais clairement, oui, il faut évoluer. Mais ce qui est intéressant, c'est d'évoluer, de récupérer ce qu'on peut faire de bien, d'utiliser les nouvelles technologies, mais de les ramener aussi dans des cas concrets même dans ce qu'on fait aujourd'hui en prospection physique. Le chat GPT, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai créé des prompts qui me permettent de faire des posts sur mon compte, sur ma page, sur mon blog. Et en fait, ça me décharge énormément de boulot. Ça peut me permettre d'avoir 50 idées de Reels, ce que je n'aurais pas eu, en fait, finalement. Ça peut me permettre de créer des choses en plus qui peut-être m'auraient pris beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, du coup, oui, on va utiliser de la nouvelle technologie, on va utiliser les tunnels de vente, mais comment les intégrer réellement dans notre vie de tous les jours d'agent immobilier, de conseiller immobilier, parce que pour moi, la prospection porte-à-porte, elle n'est pas morte. Pour moi, la pige téléphonique, elle n'est pas morte. Pour moi, la prospection commerçant, elle n'est pas morte. Pour moi,
d'accord, mais comment t'expliques qu'il y a autant de décalage? Comment t'expliques aujourd'hui qu'il a fallu le Covid pour que les gens se disent « Hey,
parce que,
on va faire la signature électronique ».
Parce que les gens sont pas, parce que les gens sont pas curieux. Parce que les gens préfèrent regarder des vidéos amusantes de chats ou de chiens plutôt que de s'intéresser vraiment à une nouvelle technologie. Quand tu utilises Prospeneo, on va parler de Prospeneo, d'accord, qui est ton logiciel. Ce logiciel, il demande du temps d'adaptation.
Bien sûr.
Donc, est-ce que les gens qui vont prendre Prospeneo vont vraiment prendre ce temps pour s'adapter à ton logiciel et pour vraiment connaître toutes les astuces pour pouvoir créer des tunnels de vente, des trucs, des machins, l'utiliser pour créer des campagnes de mail, etc. Ben, en fait, tu vas peut-être avoir sur 10 personnes, tu vas peut-être en avoir 2 qui vont le faire. Les 8 autres, en fait, ils vont dire non, mais j'y comprends rien.
Ils vont acheter de la prestation déjà toute faite.
Ils vont acheter de la prestation toute faite ou ils ne vont rien acheter du tout, mais dans tous les cas, ils vont leur attention va être proche de zéro. Et on parlait tout à l'heure de l'attention, elle est là en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment dire aux personnes que oui, les tunnels de vente, les pages de capture, etc., c'est le futur, bien sûr.
Tu sais, c'est marrant parce qu'à l'époque, quand je manageais les équipes, c'était le truc classique, hein. À chaque fois que je faisais des réunions d'équipe, le gars me disait « Ben, j'ai pas le temps, tu ne te rends pas compte de ma journée. » Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'agenda, j'ai pris ses rendez-vous et j'ai stabiloté tout le temps libre qu'il avait. Et je lui ai dit « Tu sais, regarde, entre tes visites et tes machins, tu as vu tout le temps libre que tu as là ?» En gros, ça veut dire que quand je cumule tous tes rendez-vous, en réalité, tu as peut-être bossé 2 jours dans la semaine. Mais c'est une réalité. Donc, à un moment, se dire « Ouais, j'ai pas le temps. » Est-ce qu'à un moment ou à un autre, c'est peut-être se dire « Ok, j'ai pas d'ambition, j'ai pas envie de… Laisse-moi mourir. Ben, ouais, mais est-ce que c'est pas ça le truc?
Tu sais, quand il y a eu la carte bleue aujourd'hui, à un moment donné, les gens, ils y croyaient pas. Ils restaient avec leur chéquier ou avec leurs espèces. Et puis ensuite, il y a eu la crypto. La crypto, il y a des gens qui ont accepté de voir ce que c'était que la technologie de la crypto et d'autres, non. La blockchain, etc. Et puis, tout est comme ça, en fait. Tout, à un moment donné, a un besoin de maturité, en fait. Il y a une maturation qui doit se faire. Et cette maturation, en fait, elle n'est pas encore arrivée réellement chez les conseillers immobiliers, chez les agents immobiliers. Peut-être parce que déjà, les gens qui gèrent les agences ne veulent pas s'y intéresser. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi aujourd'hui qui parlent de ça. Qui même parle ça, de ça très bien sur YouTube, pour dire aux gens « Hey, ça existe, il faut vraiment que vous en occupiez parce que c'est vrai que c'est vraiment important et c'est intéressant pour vous. » Mais après, il faut qu'il y ait l'utilité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment montrer aux gens que ça va être utile pour eux et qu'ils vont pouvoir gagner du temps, de l'argent. Pour ce qui est des temps morts, moi, j'ai une technique qui est infaillible. C'est une technique, vous prenez une feuille blanche. Voilà, vous faites des petits traits comme ça, ou un cahier, et puis vous écrivez l'heure, enfin la date, d'accord, l'heure, le nom de la personne que vous avez contactée et les observations. Et vous allez faire ça à chaque fois que quand vous arrivez au bureau le matin, vous ouvrez une nouvelle page et vous marquez. Voilà, donc à 9h03, j'ai appelé Monsieur Dupont et en fait, il m'a dit que son projet était reporté de 6 mois. À 9h05, j'ai appelé Monsieur Machin, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'à un moment donné, quand vous allez regarder votre fichier, vous allez vous dire, mais entre 10h12 et 14h, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que j'ai appelé personne, en fait. En fait, c'est là qu'on se rend compte que bah, ça se trouve, on a discuté avec, avec Michel à la machine à café. Ça se trouve, on a eu un autre appel qu'on n'aurait pas dû prendre tout de suite, mais on l'a pris quand même. Ça se trouve, on est allé sur Internet et puis on a été surfé et en fait, finalement, on n'a rien fait. Et en fait, on s'est rendu compte que pendant 2 heures ou 3 heures, et ben, finalement, la journée s'est totalement arrêtée. Et c'est là où on se rend compte vraiment que ben, finalement, dans la journée, il y a énormément de temps qui nous échappe. Et c'est ce temps-là, on peut se former, on peut appliquer de nouvelles méthodes, on peut regarder des chaînes qui sont inspirantes, etc. Au moins bien parce sûr. Que ça va nous apprendre des choses.
Bien sûr.
Combien de fois j'ai été absorbé par TikTok ? Je te dis franchement, je reçois un lien TikTok, je regarde, et au bout de 3 quarts d'heure, tu regardes, tu dis, putain, merde, ça fait 3 quarts d'heure que je suis dessus, quoi.
C'est ça.
C'est un truc de fou.
C'est ça.
Et donc, tu as perdu 3 quarts d'heure. Voilà.
On va passer aux questions. Alors, on va essayer de faire un petit point sur les questions. Alors, bonsoir, nous sommes des prestataires. Alors, j'essaie de voir, nous sommes des prestataires de services, mais que vendons-nous ? Ça, c'est une bonne question. Que vendons-nous ? Alors, je te laisse répondre. Oui, on est. Enfin, oui.
Bah, on a un peu répondu quand même à cette question. Que vendons-nous ? En fait. Moi, quand je suis chez un client, je ne vends pas, mais encore une fois, je ne vends pas mes services.
Je sers un client.
Comment ?
Je sers un client.
Je sers le client. Je vais déjà savoir ce qu'il recherche réellement. Et ensuite, derrière, je vais pouvoir savoir si je peux le servir. Bien sûr.
Une bonne estimation pour vendre rapidement. Oui. Oui, de toute façon, l'estimation pour moi, elle est… C'est une bonne réflexion là-dessus, l'estimation, parce que souvent on parle d'estimation, mais en réalité c'est le travail en amont. C'est-à-dire que, imaginez, demain vous faites une course, vous êtes sur la même ligne de départ que 5 conseillers immobiliers. Le propriétaire, il a appelé 5 agences ou 5 mandataires, peu importe. Et en gros, vous êtes tous au même niveau. Donc en gros, ça va être la course, ça, je sors mon blabla, Alors selon les réseaux, selon les marques, on va sortir son classeur, son machin. Et puis, on va aller, c'est la déballe. Et en réalité, c'est ce que j'ai toujours. Quand on parle des tunnels, quand on parle de mettre un QR code sur son flyer pour ramener, quand on fait avec les tunnels de vente, on peut faire des pages personnelles pour des conseillers, etc. C'est qu'on travaille en amont. C'est-à-dire que votre propriétaire, quand il vous a déjà vu sur Internet, etc., il a vu des vidéos de vous, même si elles ne sont pas superbes aux vidéos, il a vu quelqu'un, il a vu de l'émotion. Il a vu quelqu'un comme lui aujourd'hui. Et il va se dire, le jour J, il va se dire, ce gars-là, je le connais déjà. Maintenant, on va aller plus loin. Mais quand les autres vont se démener aujourd'hui pour pouvoir justement essayer de faire toute la déballe, ce conseiller-là, normalement, bah, pour lui, c'est gagné. Enfin, à moins qu'il fasse comme toi, qu'il dise, elle a acheté cher, votre maman, quand même. Donc voilà. Passeport financier, bon, je pense que ça, c'est un. Étude et analyse de marché, sémantique à renouveler, oui.
C'est un monsieur ou une dame qui commentait en même temps qu'on parlait. Du coup, c'est sûr qu'on ne va pas forcément comprendre ce qu'il dit là.
Ouais.
Au fur et à mesure, en fait.
Alors, il y a une question qui est là. On ne peut pas parler informatique et arriver avec du papier.
Bah,
moi, j'adore les bouquins. Hein.
Bah, moi aussi.
J'ai une tonne de bouquins. Alors, en réalité, c'est toujours pareil. Je pense que l'informatique, ça part, les papiers, ça reste. On le voit bien d'ailleurs, les vieux bouquins aujourd'hui, on a tous des vieux bouquins de nos parents, nos grands-parents. Ça reste, c'est quelque chose qui est immuable, quoi. Un mail, ça s'efface, une vidéo, ça s'efface. En plus, ça vieillit, c'est-à-dire que quand tu as fait ta vidéo il y a 10 ans, quand tu as ta chaîne YouTube et voilà que tu as pris 10 ans de plus, parfois c'est un peu has-been. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, les deux ne sont pas incompatibles. Je pense qu'aujourd'hui, on en parlait avec le flyer, je trouve qu'une étude de marché, une estimation qui est donnée en bonne uniforme, elle peut compléter à un moment ou à un autre un discours et toute la partie digitale qui a été faite dans un moment. Donc, je pense que les deux ne sont pas à mettre en opposition là-dessus, quoi.
Non, pas du tout.
Ah, d'accord. Alors, il y en a un qui nous dit carrément, lui, quand il fait son estimation, je vais sur le site Meilleur Agent chez le client. OK. Pourquoi pas ?
Comme ça, son client, il voit tous les concurrents.
C'est ça, il voit tous les concurrents. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, quand vous avez le lead, il y a tout le monde qui l'a, quoi. Après, je ne sais pas si ça a changé entre-temps. Mais,
ouais.
Ok, alors c'est vrai, par contre, il y a un truc qui est très vrai, c'est qu'il y a une opportunité qui est très, très. Il y a une opportunité parce que très peu de commerciaux l'utilisent. Mais, j'ai envie de dire que de toute façon,
C'est qui ce
il y en a qui dit bouh.
On ne sait pas qui c'est, donc du coup, c'est compliqué de répondre. Oui.
Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, oui, c'est une opportunité, mais c'est toujours pareil. Pour moi, une opportunité, il faut bien comprendre une chose. Enfin, moi, c'est ce que je m'applique à moi-même. Pour moi, on se confond toujours une amélioration et une opportunité. Une amélioration, c'est un truc que tu as vu. Et je vous prends un exemple. Vous avez eu chez vos concurrents, ils faisaient une page d'offre, etc. Et vous décidez de faire la même offre, mais vous rajoutez l'estimation gratuite et vous rajoutez ceci, cela. Ça, c'est une offre améliorée. Cette offre améliorée, elle est compliquée à vendre parce qu'elle fait référence au passé sur des choses qui existent déjà. Une opportunité, pour moi, elle change de statut. Alors, on parlait de transformation, on peut appeler ça comme on veut. Mais une vraie opportunité, c'est quelque chose, quand vous la voyez, vous dites « Waouh, ça va changer mon statut. Je vais être plus riche, je vais être plus fort, je vais être plus beau, je vais être plus intelligent. » Enfin, à partir du moment où vous avez une opportunité et qu'elle vous transforme, c'est gagné. Votre offre, vous l'avez vendue, quoi. Et ça, je pense que c'est super important de bien, bien l'intégrer dessus. Le mot de la fin, il est pour toi.
Par rapport à tout ce qu'on a dit,
je la pense peur du changement.
Il y a effectivement le changement, mais je pense qu'il y a une chose qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est le plaisir. Et à partir du moment où on prend plaisir à faire ce qu'on fait, on peut réussir à faire beaucoup de choses et à finalement même changer notre façon de travailler parce qu'on prend plaisir à évoluer. Et moi, je dis souvent que pour faire quelque chose, il faut comprendre pourquoi on le fait. Et souvent, dans ce métier, décidément, il n'arrête pas de venir le bout. Qui c'est qui ? Hop.
C'est Boubou. Oui, tu disais donc sur
ce métier. Dans ce métier, souvent, on te dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire de la prospection. Mais on ne t'explique pas pourquoi tu dois faire de la prospection. Et je pense qu'à partir du moment où on a compris pourquoi il faut faire quelque chose, et ben derrière, on peut prendre plaisir à le faire, vraiment. Et encore une fois, à changer ses propres habitudes en disant, tiens, je te conseille, c'est de faire aujourd'hui des pages de capture ou des tunnels de vente. Je vais t'expliquer pourquoi ça va être intéressant pour toi. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Si on n'explique pas le pourquoi, les gens, à un moment donné, ils se disent, non, ça ne m'intéresse pas. Voilà.
Merci Alexandre. Pour ceux qui veulent suivre Alexandre, il a donc une chaîne donc sur YouTube, Secret de Pige.
Alexandre Cordani, ma chaîne.
Ah, c'est Alexandre Cordani, ça s'appelle. Ah oui, d'accord, ouais. Je crois que ça s'appelle Secret de
Pige. L'émission s'appelle Secret de Pige.
Ouais, ils vont aller chez un concurrent.
C'est Alexandre Cordani. Mais peu importe, quand vous tapez Secret de Pige, vous allez aussi tomber dessus. Hein,
Très bien. J'espère que, donc si vous voulez plus d'infos, pareil, allez sur la chaîne YouTube Marketing Immobilier, puisque je traite de plein de sujets de marketing, de tips d'immobilier, de choses qui sortent un peu des sentiers battus. Et merci pour ce premier épisode, Alexandre, donc pour avoir introduit ce premier épisode de ce podcast.
Merci à toi.
Moi, j'ai envie de vous dire à très bientôt. Et puis, pensez à une chose, faites partie de la minorité qui agit. J'espère qu'avec ce premier podcast, ça va vous donner un petit coup de boost et vous dire, allez, tu sais, dans les innovations, il y a deux façons de faire. Il y a soit rester sur le quai de la gare, soit regarder le train partir avec ceux qui l'ont pris. Faites partie de ces gens-là, croyez-moi, vous ne le regretterez pas plus tard. Merci Alexandre. Et puis, à une prochaine. À bientôt.
À bientôt. Au revoir. Salut.